Le Rayon BD, Cardon, un dessinateur monumental. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture pour une rencontre aujourd'hui avec un grand dessinateur. Il est surtout connu comme dessinateur de presse puisqu'il dessine dans Le Canard Enchaîné depuis plus de 45 ans. On reconnaît au premier coup d'œil son trait de plume vif et surtout ses personnages massifs et lourds que l'on voit la plupart du temps de dos. Mais il a aussi fait de la bande dessinée, de l'animation et des grands dessins poétiques et philosophiques dont certains ont été publiés en recueil. Il signe Cardon de son vrai nom puisqu'il s'appelle Jacques-Armand Cardon. Il est né au Havre en 1936, l'année du Front Populaire, et ses années d'enfance ont été marquées par la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas raconter toute sa vie, lui non plus d'ailleurs, le rayon BD n'y suffirait pas, mais nous allons parler ensemble aujourd'hui de quelques-uns de ses souvenirs, de quelques-unes de ses obsessions et de quelques-uns de ses cauchemars peut-être. Cardon publie en effet ces jours-ci Cathédrale, une sorte de long poème graphique, biographique, allégorique, halluciné, qui compose un récit dans lequel il a mis, semble-t-il, beaucoup de lui-même. Un livre magnifique, coédité par les éditions Super Loto et la librairie du Mont en l'air. Un livre fait de grands dessins, silencieux, qui semble condenser tout ce que son auteur pense et tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Bonjour Cardon.
Bonjour.
Nous allons parler de votre vie, de votre enfance, de votre carrière aujourd'hui. Dans votre livre, tout ouvre des portes, tout résonne. Mais je voudrais commencer par ce titre, cathédrale. C'est un mot très riche de sens. Pourquoi cathédrale ?
Parce que la cathédrale, telle que je l'ai vue la première fois à Paris, dans les années 40, et surtout à la Libération, où j'avais pris quelques distances avec la condition humaine, enfin, non pas, où j'avais compris un peu certaines choses, la vue de la cathédrale m'avait fort impressionné quand même. Et il fallait que j'en tire quelque chose. La guerre nous avait tellement éparpillés que il fallait regrouper quelque chose dans un récipient. Et la cathédrale de Notre-Dame de Paris s'est imposée à moi directement. Comme c'était dans ce monument-là, dans ce récipient, en quelque sorte, où j'ai pensé que la cuisine, enfin la cuisine, ce que j'avais l'intention de dire, ce que la vie me forçait encore à dire pour m'en débarrasser en quelque sorte, allait trouver son espace dans ce que représentait cet énorme bâtiment que Victor Hugo avait lui aussi trouvé impressionnant.
Donc c'est un livre récipient, un livre monument aussi, oui. Puisque il a été comme les cathédrales, comme Notre-Dame de Paris, oui, patiemment, longuement bâti.
C'est ça. Alors on appelle ça un palimpseste, hein, c'est ça. Oui. On efface sur le parchemin les écritures ou le dessin qu'on avait fait la première fois pour y mettre autre chose. Et là, c'est un peu ce que j'ai fait. Il y avait des choses dans la cathédrale de Victor Hugo qui me plaisaient, bien entendu. C'est important, son livre est important. Et quelque chose qui me déplaisait, à savoir le fameux Ananké. La fatalité, en quelque sorte,
ce graffiti qui
prétendait avoir vu, rencontrer, gravé dans la pierre, dans une des tours, justement, et qui signait, évidemment, la condition humaine jusqu'à la mort de l'individu, quoi, enfin, des participants à cette vie de la cathédrale. Et ça m'insupportait. Ça m'a insupporté. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi ça m'insupportait. Mais ce que j'avais vécu en Bretagne, avec la barbarie nazie, je ne pouvais pas accepter que ce fût là, uniquement que de la fatalité. Il y avait quelque chose là qui était la responsabilité des hommes, des individus et des nazis là, en l'occurrence.
Ce livre, Cathédrale, est une œuvre à clé qui raconte, qui contient toute votre vie, je l'ai dit, un certain nombre de vos obsessions, de vos cauchemars qu'il fallait coucher sur le papier. Dans un long texte introductif, vous donnez des clés aux lecteurs que nous sommes, puisqu'on ne connaît pas toute votre vie a priori. C'est surtout centré sur votre enfance, très marquée par la guerre, avec en particulier la figure de votre père qui est mort en Allemagne dans un bombardement pendant qu'il était prisonnier. Oui. 36 est aussi l'année du Front Populaire. Vous êtes né dans un milieu ouvrier. Comment est-ce que le dessin est arrivé dans votre vie ?
Ben, sans doute aussi par la génétique, hérité des dons de mon père, qui était un très très bon dessinateur.
Il était artisan voilier de profession.
Oui, il était voilier. Voilier, on était apprenti dans les années 20, puisqu'il était né en 1910. Apprenti dans les années 20, sorti, c'était la Compagnie Générale Transatlantique qui formait des apprentis, et lui était devenu le voilier, très bon voilier, et comme il était bon dessinateur, sans doute savait-il comment tailler une voile, enfin, participé à ça. Et je l'ai très peu connu. Les souvenirs que je garde de lui sont une espèce de souvenirs de physique. Par exemple, je me souviens d'avoir monté avec lui la rue de Bretagne au Havre, l'escalier en tournevis de la voilerie. Et les boutons de la capote me faisaient mal à la jambe gauche, donc. Et je n'osais rien dire parce que c'était mon père. Je ne disais rien et ça me faisait un peu mal quand même.
Et on voit bien dans ce que vous racontez, dans ce premier souvenir que vous évoquez, comment fonctionne votre livre, parce que dans cette cathédrale que vous dessinez, il y a des escaliers à vis, il y a du silence, parce que voilà. Vos personnages sont silencieux.
Oui, il y a du ressenti physique en tout cas. De l'intranquillité permanente, cette portion-là, sans le père qui est là pour vous rassurer... Il faut avoir une résilience, hein, comme on dit. Essayer de compenser l'absence par peut-être un surcroît d'imagination. Hein. Et c'était ma tante, qui était la sœur aînée de ma mère, elle avait 18 ans de plus que ma mère. Et donc c'est sous la tutelle de cette personne que j'ai traversé une grosse partie de la guerre. Elle me montrait tout. Elle m'avait montré les pendus de Rostronin, elle m'avait montré l'homme torturé, arrêté par les Allemands, et que ces Allemands avaient déposé chez le médecin de Rostronin pourquoi l'avait-il déposé moribond chez le docteur Garnier, ça je l'ignore. Et il avait fallu que ma tante me montra cet homme mort sur sa table. Et c'est tout ça dont il a fallu que je me débarrasse, enfin mettre ça noir sur blanc, sortir ça du fond de ma conscience ou de mon inconscience, pour mettre ça noir sur blanc, pour m'en débarrasser. C'est lourd à porter. Depuis 60 ans, ce livre est en préparation, mais ça met longtemps à sortir. Hein. On est comme un scaphandrier qui descend soi-même pour essayer de faire remonter à la surface des épaves, des visions profondes.
Alors dans les clés de lecture, il y a donc ce traumatisme de la guerre, vous avez été baladé, donc vous avez quitté le Nord, vous êtes arrivé à Billancourt, vous êtes reparti en Bretagne. Et en Bretagne, vous avez aussi travaillé très jeune, adolescent, à 17 ans, vous étiez embauché à l'arsenal de Lorient, sur la base sous-marine. Certaines planches de cette cathédrale évoquent aussi cette architecture un peu blocos, de Lorient, ce partage de la condition ouvrière que vous avez vécu, c'est quelque chose aussi qui vous a construit, qui vous a constitué.
Ah bah oui, bien entendu, bien sûr, parce que c'est quand même un milieu impressionnant, la condition ouvrière. On voit bien comment ces hommes sont sur des rails jusqu'à la retraite. J'ai d'abord été apprenti, évidemment. Ma mère s'était remariée avec un ouvrier de l'arsenal, il fallait qu'elle ait un compagnon. Elle n'était pas indépendante économiquement. Et nous nous sommes retrouvés dans une famille inconnue où il a fallu s'imposer, non pas s'imposer, je disais, mais enfin trouver une sorte de modus vivendi. Et c'est là où la condition ouvrière s'est imposée d'autorité. Hein. On ne mégote pas dans ce milieu-là. Il faut savoir se défendre. Et puis c'est une culture, hein, la culture ouvrière, les syndicats, la politique, comprendre les choses, avoir affaire à la matière brute. Hein, j'avais à apprendre à faire une queue d'aronde quand on est apprenti, à la lime. Savoir réparer des moteurs de sous-marins, etc. Tout ça participe d'une autre connaissance que ce que j'avais connu au Havre dans mon enfance, quoi. Et on en sort évidemment transformé. Et on traîne ça toute sa vie. Hein. On devient prolétaire et on fonctionne en prolétaire.
Mais vous en êtes quand même sorti, puisque le dessin est devenu votre métier. Alors comment est-ce que ça s'est fait?
Ben, c'est-à-dire que je n'étais pas fait pour ça. On m'a mis là pour parce qu'il fallait bien. Il fallait bien me donner un métier. Hein. J'étais pas, ce n'était pas mon père, cet homme. Il n'avait rien d'un artiste et il pouvait pas tout à fait comprendre ce que je dessinais quand j'étais à l'école et que mes velléités de raconter des histoires je le faisais dans ma chambre. Et jusqu'au moment où...
Mais vous étiez artiste, vous étiez décidé à devenir...
J'ai toujours dessiné. Je me disais peut-être tout à l'heure que l'exemple de mon père, des dessins que j'avais eus sous les yeux de mon père, sans le voir dessiner d'ailleurs, mais bon, on me les avait montrés. Sa mère, qui allait perdre son fils... s'était imposé, avait imposé intelligemment le respect que j'avais pour cet homme. Ça a été mon surmoi. La façon qu'on avait eue de parler de lui s'imposait. C'est comme, comme on dit, noblesse oblige, là en tout cas...
Paternité oblige.
Obligé.
Alors c'est finalement au service militaire que vous avez quitté cette condition ouvrière, même s'il en est resté quelque chose dans votre personne et dans votre personnalité. Vous avez fait votre service militaire à Toulon, mais vous avez fréquenté là non seulement les beaux-arts, mais aussi vous êtes ouvert à toute la vie culturelle de l'après-guerre.
Paradoxalement, c'est comme ça que je me suis un peu émancipé, que je me suis libéré de la tutelle familiale, qui n'était pas... qui posait problème, qui me posait problème et qui m'avait enfermé dans une espèce de tutelle dont il fallait absolument, oui, que je me libérais. Et donc je m'en suis libéré à Toulon, paradoxalement. Et dès que je n'étais pas de service, j'avais d'abord embarqué sur un bateau. C'était encore un escorteur d'escadre dont on m'avait débarqué parce que mon père étant mort à la guerre, j'étais dispensé d'Algérie. Et l'escorteur était affecté à Marzel-Kébir, donc en Algérie. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Il n'était pas question pour moi d'aller me battre en Algérie pour les beaux yeux de la Marianne du moment. Donc j'avais débarqué, on m'avait mis comme matelot d'entretien à l'école des apprentis mécaniciens de la marine à Saint-Mandrier. Et de là, lorsque je n'étais pas de service, j'allais à Toulon, aux Beaux-Arts de Toulon, où là j'ai fait du dessin, avec les copines nous allions au conservatoire, enfin bon. Donc musique, copines, lithographie, dessin, voilà. Et ça... En même temps, j'avais rencontré, faisant leur métier, des Parisiens, leur service militaire, qui connaissaient Ciné, qui Ciné à l'époque était une grande vedette déjà. Hein. Et alors là, je me dis, c'est pas possible. Il faut que j'approche cet univers complètement inconnu. Comment faire pour entrer à Paris et entrer dans ce monde du journalisme, du dessin, etc. Et il y a eu un petit événement, c'est que Jean-Jacques Pauvert publiait à l'époque des revues. Hein. Il était vraiment à la tête de l'humour noir et de l'humour, tout simplement. Et il avait une revue qui s'appelait Bizarre. Et je tombe chez le libraire de Lorient sur deux publications. Il y avait le Bizarre des dessins inavouables, avec Topor, Ciné, Folon, etc. André François, enfin bon... Déjà les grosses pointures. Et en même temps, paraissait, à ce moment-là, ça c'était en 60-61, apparaissait une revue qui s'appelait Haute Société. Cette belle revue, luxueuse, à dos carré, oh, me tape dans l'œil. Chaque couverture était illustrée d'une lithographie. Alors, il y avait une première lithographie, numéro 1. Il a publié 3 numéros, ce gars-là. Première lithographie du numéro 1, la couverture d'André François. Ah. Deuxième lithographie, Topor. Troisième lithographie de couverture, je me souviens plus. Enfin bref, mon intention, c'était vite d'aller voir ce que Pauvert pensait de ce que j'avais, parce que je dessinais à la maison le samedi, quand je ne travaillais pas à l'Arsenal, d'arriver mon petit carton sous bras et d'aller voir à la fois Jean-Jacques Pauvert et de prendre... parce qu'il avait publié le Bizarre, et de prendre contact le plus vite possible à l'éditeur de Haute Société. Ce que j'ai fait, bien entendu, Jean-Jacques Pauvert m'a reçu à bras ouverts, me donnant des conseils, me disant « bon, j'ai un numéro, mon Bizarre, je n'ai pas de thème pour le Bizarre prochain, le numéro 19, allez, je vais passer vos dessins. Alors, c'était des dessins inaboutis, bien entendu, je ne savais trop ce qu'il fallait faire. Mais enfin, j'y avais traité de la condition ouvrière, de ce que j'avais vécu. Il y avait aussi des curés diaboliques, enfin, ça me plaisait bien de caricaturer cet univers. Et puis, alors, il me dit, ah, il y a une revue qui vient de paraître, allez donc les voir, c'est Harakiri. Alors, je suis allé à Harakiri, j'ai vu, ils étaient en bas de la rue, enfin bon, c'était, comment c'était?
La rue Choron? Non?
Non, encore. C'était la, non, la rue Choron, non, il y avait le petit, au square Choron, exactement, c'est ça. Et c'est Choron a pris le nom de ce square où ils étaient, dans une espèce d'entresol, où toute l'équipe était réunie, l'équipe était faite, hein. Et moi, je suis arrivé avec mes petits dessins. Et Cavana me dit, mangeant des nouilles, vous savez, ils avaient fait un groupe là, une grosse plâtrée de nouilles, et tous mangeant, tout en disant leur plaisanterie, qu'allait alimenter le prochain numéro. Et il m'a dit, allez trouver le dessinateur Fred. Vous montrez-lui ça. Bon, alors, je suis allé trouver Fred, je lui ai laissé des dessins. Et puis, revenez. Et puis, un mois plus tard, je suis repassé, mais, Fred n'avait pas montré les dessins, évidemment. Il les avait laissés au-dessus d'un placard. Alors je dis à Cavana, vous avez vu mes dessins? Non, je les ai pas vus. As-tu vu les dessins de Cardon? Alors Fred montant sur une chaise, attenant mes dessins, bref, j'ai vu à peu près comment se comportaient les dessinateurs à ce moment-là, ce qui a été un choc pour moi, qui venait d'un atelier où l'on se respectait un peu plus. Et puis donc j'ai intégré petit à petit, mais je ne pouvais pas intégrer l'équipe qui était faite.
De Charlie Hebdo, de Harakiri.
C'était Harakiri.
C'était Harakiri, bien sûr.
Un seul, alors il y avait Cabu, il y avait Topor, etc. Et le seul qui m'est vraiment plu, qui pour moi était une sorte de frère prolétaire, c'était GB. GB était dessinateur.
Il avait été ouvrier aussi, etc. Oui, c'est ça.
Oui, mais très bien. Et avec GB, c'était voilà, un frère. Tandis que les autres étaient pour moi des étudiants attardés, qui n'avait pas à dire, qui n'avait en fait rien à dire de ce qui m'intéressait. Donc mon passage à Harakiri était épisodique.
Alors ensuite, on peut pas, comme je le disais, on peut pas raconter toute
votre
vie.
Non.
Vous êtes entré.
Je m'étends peut-être un peu.
Quelques années plus tard, mais au Canard Enchaîné, quand même en quelques mots. Le dessin de presse, c'est une idée qu'il faut traduire graphiquement. Dans ce livre Cathédrale que vous publiez, c'est sans doute tout autre chose. D'abord, il y a un temps de maturation qui semble beaucoup plus long. Ce sont, on l'a dit, des choses que vous portez en vous depuis plusieurs dizaines d'années. Est-ce que quelquefois, dans ces dessins, même s'il y a un temps de réalisation qui est très long, puisqu'ils sont faits à la plume, avec beaucoup de hachures, de trames, est-ce que quelquefois, le dessin précède l'idée, ou est-ce que l'idée du dessin vient en le faisant? Il y a quelque chose d'un peu halluciné quelquefois dans ces dessins. On peut avoir l'impression que c'est votre main qui vous a guidé ou qui a présidé à certaines visions.
Ben il faut, je vous disais tout à l'heure, on avait un peu la façon d'escaphandrier, descendre au fond de l'idée que l'on a traitée. L'idée, on sait que, ah, tiens, j'aimerais traiter ce qui se passait lorsqu'on voyage, comment traduire ce temps qui va vite, et il faudrait freiner, alors il faut trouver une idée de frein, donc le dessin du frein.
On voit le long d'un mur une pédale de frein avec marqué frein.
Voilà. Quel effet il peut avoir sur le déroulement du temps qui passe et de la vie que l'on mène. Mais enfin bon. Donc c'est ça, on se penche, non. Il y a du Lacan qui disait c'est ridicule tous les hommes se penchent sur des problèmes. Bon, alors moi je m'étais penché sur ce problème-là, mais comment amener l'élément qui sera dégraissé, enfin tout ce qui sera coupé de toute bavure excédentaire, bon, pour ne garder que le point le plus important d'une idée. Se débarrasser de tous les trucs parasites pour ne garder que l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là que l'on livre en quelque sorte. Alors, pour la politique au Canard Enchaîné, c'était un peu ça. Se débarrasser des aléas, des ridicules, des politiques les plus anecdotiques. Mais c'était ça que voulait le Canard, il veut que ce soit drôle. Et moi, ça m'embêtait beaucoup d'être drôle. Quelquefois, je n'avais pas envie d'être drôle, j'avais envie de frapper fort, d'être, comment dire, percutant. C'était ça. Et alors à ce moment-là, il fallait que j'élague, il fallait que ça... Et que ça finisse par s'imposer une image que je n'avais plus qu'à dessiner. Mais je l'avais en tête, cette image. Il fallait d'abord qu'elle apparaisse de cette façon-là. Et ensuite, on la traite, on la dessine, on fignole, on se débarrasse, je sais pas quoi, d'un habit, d'un truc qui n'est pas utile à la démonstration.
C'est pour ça que vos personnages, notamment, sont, en général, je le disais, massifs, souvent vus de dos, mais pas habillés la plupart du temps. Ce sont des espèces de silhouettes de granit ou de...
Oui, mais c'est parce que j'avais fait un peu de sculpture aussi et que je sens les hommes chargés d'une violence, d'une force en potentiel comme ça, qui ne s'exprime que dans la masse. Je les vois marcher, ils marchent lourdement, mais ils sont têtus. Peut-être ça vient du fait que d'origine un peu bretonne sur les bords, il faut pas faillir. Alors on a maille à partir avec les choses, de même que j'ai eu maille à partir avec le métal ou les câbles qu'il fallait tirer pour les sous-marins, la voie sous-marine. Voilà. C'était des ingénieurs du génie maritime qui nous commandaient. Il fallait satisfaire à ces messieurs tout de même, et que le sous-marin ne reste pas au fond. Donc il y avait des trucs, il fallait réparer des moteurs, etc.
Alors on l'a dit, ce livre Cathédrale, c'est une œuvre à clé. Vous nous avez raconté quelques épisodes de votre vie, de l'enfance. On comprend certaines figures de dictateurs. On voit Hitler, on voit Staline, on voit aussi De Gaulle, on voit y compris les hommes politiques actuels qui font écho à votre métier de dessinateur de presse. On voit les pieds nickelés qui sont votre enfance. Mais comme on est dans une cathédrale, il y a aussi une séquence en trois images au début, où on aperçoit Jésus qui arrive à cheval sur sa croix comme un naufragé sur un radeau, et qui semble prendre en stop, ou vous prendre en stop puisque vous êtes dans une impasse. Vous portez sur votre dos un sac de marin qui montre le rapport à votre père. Quel est votre rapport au sacré? Quelle est la place du sacré dans cette cathédrale?
D'abord, j'ai trouvé Jésus, comme un personnage extrêmement sympathique. Oser se dresser contre le Sanhédrin ou le Sanhédrin, et pour imposer l'espérance qu'il avait en tête, d'où ça vient cette espérance, le Messie arrivant, une espèce d'inspiration, on peut pas dire divine, moi je crois pas en Dieu. Mais probablement une générosité parfaitement humaine, donner jusqu'à en périr en quelque sorte. Et ça me paraissait fondamental dans la démarche d'un individu. Et l'individu Jésus m'a paru, j'ai dû faire un peu, sans être croyant en quoi que ce soit, j'ai dû faire un peu impressionné d'abord par ma grand-mère, qui était une bretonne très chrétienne. J'ai jamais rencontré de personne aussi généreuse, ne disant jamais de mal de personne, enfin généreuse comme c'est pas possible. Voilà, c'était un univers chrétien que j'ai fréquenté chez les bonnes sœurs. Nous étions réfugiés chez des sœurs de Rolleville. Et je les ai vues, ces sœurs-là, privées de romans, en quelque sorte, quoi. C'était de jolies sœurs. Certaines, je devais être à 5 ans, 6 ans, amoureux de ces grandes femmes en bure, robe de bure, avec leurs chapelets qui pour moi étaient comme des échelles vers le paradis, quoi, en quelque sorte. Non, ça ça a été important. Ça n'a pas été fondamental, mais ça a été important.
Et Jésus, à la fin, il vous prend, semble-t-il, en stop à cheval sur sa croix, et puis vous le saluez de la main et vous le laissez repartir.
Voilà, je le laisse partir assez jusqu'au moment où il en a marre et il.
Oui, parce que plus tard on le retrouve.
Il se fait une perfusion parce qu'il dit ces hommes sont vraiment trop bêtes. Pourquoi se sacrifier pour cette espèce de peuplade de sottises et de crétins? Je me retire et je me retire sur mon Aventin ou sur mon Transat, en fait.
Avec un panneau, basta, la couronne d'épines est accrochée au coin.
Ça suffit des conneries.
Il y a d'autres planches tout à fait frappantes, en particulier je pense à une séquence aussi, puisqu'elle occupe plusieurs dessins, une séquence de cauchemar, où on voit une sorte de lombrique absolument gigantesque qui arrive, qui grimpe, qui dégouline peut-être à certains moments, et puis qui semble finalement se nicher, s'installer sous des petites voûtes de la cathédrale, à un endroit.
Alors pourquoi cette scène d'enfance? Je pense que je date ça de 1942, quoi. Nous sommes chez à l'asile, et ma mère.
Vous avez 5 ou 6 ans. Là,
et ma mère me met non, c'était pas une maternelle, parce que vraiment j'y ai pas appris à lire ni à quoi que ce soit. On dessinait, on faisait des trous autour des feuilles, enfin bon, peu importe. Et les enfants c'était la guerre, on avait peu à manger. On bénéficiait de la nourriture des sœurs qui nous aidait pas mal, mais Il y avait beaucoup, et il y avait un petit copain, hein, donc, hein, de la classe, qui était maladif. Il était pâle, il avait toujours un grand cache-nez avec des franges blanches, en laine blanche. Il était vraiment malade. Il était mal. Il y avait quelque chose chez lui qui n'allait pas. Et un jour, à la récré, cet enfant vomit. Il vomit un énorme lombric qui se tordit rouge, qui se tortillant sur le sol devant nous, et ça m'a effrayé. Il y a eu quelque chose là qui était du domaine de la répulsion, quelque chose dans cet enfant avait en lui cette bête là, et ça m'a, j'en ai encore des frissons. Et donc il fallait, comme un mal, hein, comme un mal qui est à l'intérieur de comme un ténia, quelque chose de vraiment. Alors, et j'ai appris plus tard que les enfants attrapaient beaucoup ça parce qu'ils grattaient la terre pour jouer. Et alors, la terre sous les ongles, dans la terre, il y avait les œufs de ces bestioles qui se développent à la chaleur, dans la tiédeur des estomacs. Et on vomit ça, ils devaient souffrir énormément, ça devait. Voilà. Et alors, ça m'a. Pour moi, c'est assez symbolique de ce que les hommes de malheur et de souffrance et de mal ont en eux.
Et c'est assez symbolique aussi de votre livre qui a comme ça des sortes de visions cauchemardesques, métaphoriques, en tout cas. Un dernier, parce que on pourrait s'attacher ou s'attarder sur beaucoup de ces dessins, on a envie de s'y, on s'y plonge d'ailleurs à chaque fois avec un mélange de fascination et d'effroi. Un dernier, le tout dernier dessin, c'est une petite rosette de cathédrale à quatre pétales, avec une langue qui sort, elle apparaît un petit peu plus tôt, mais cette langue qui sort, j'ai pensé que vos personnages, dans la plupart de vos dessins, n'avaient pas de bouche, étaient souvent des personnages muets. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi avoir mis à la fin cette langue dans une cathédrale? Est-ce que c'est la parole ou est-ce que c'est autre chose?
Ah bah c'est la parole, c'est la langue de bois. Là, nous entrons dans la politique dure. Les discours dont on nous abreuve à longueur de journée, à longueur d'information, etc. Et pour nous faire avaler dont on n'a pas besoin. On pourrait s'en dispenser tout de même de ces discours qui n'arrêtent pas de nous conditionner en quelque sorte. Et alors, bon, vis-à-vis de ce trilobe d'ouverture là, de la cathédrale, comme des fenêtres ouvertes sur un intérieur de cette cathédrale menaçante, dans la mesure où cette cathédrale, c'est ce contenant qui nous adresse un discours pour nous mater en quelque sorte. Et alors évidemment, on s'en défend, bien sûr.
Cette cathédrale dont on ne voit d'ailleurs jamais l'extérieur, on n'a jamais une vue d'ensemble, il n'y a pas de tour, pas de clocher, pas de flèche, ce sont des murs nus, des murs austères, des murs effrayants. J'invite tous les auditeurs à la découvrir dans ce beau livre publié donc aux éditions Super Loto avec la librairie du Mont en l'air. C'est un ouvrage, on n'a pas beaucoup le temps de parler de l'éditeur, mais on imagine que vous êtes très content, Cardon, du travail qui a été fait.
C'est un superbe objet. Merveilleux.
Qui sera dans toutes les librairies, qui est dans toutes les librairies. Cathédrale donc de Cardon, vous trouverez toutes les références sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Le rayon BD s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était comme chaque semaine, préparée avec Pascaline Bonnet, réalisée par Alexandre Manzanares, et c'est Baptiste Ménard qui nous accompagnait aujourd'hui à la technique. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Charles Danzig pour Personnage en personne.